Rodolphe Töpfer, le grand Saint-Bernard. Nous étions à l'hospice du grand Saint-Bernard, les pieds contre le feu, en compagnie du prieur. Celui-ci, après maint récit provoqué par nos questions, se prit à dire « Du reste, messieurs, notre bon Saint-Bernard est plutôt célèbre qu'il n'est bien connu. » Et je vais vous dire pourquoi, mon père, interrompit un gros monsieur, qui, assis à la droite du foyer, n'avait point encore pris part à la conversation. Il est mal connu parce qu'il a été souvent décrit. Il en est de votre bon célèbre comme de tant d'auteurs du jour, célèbres aussi et que nous, publics, nous connaissons peu, par les feuilletons, par les biographies, par les estampes. Les feuilletons plaisantent, les biographies mentent, les portraits flattent, le tout est faux comme une épitaphe. Ce monsieur se tut. Mais moi, qui suis public aussi, moi qui ai mes idées, mes convictions de public, je me sentis froissé par la leste brusquerie de son propos. Ah, permettez, lui dis-je, les épitaphes. Il ne me laissa pas achever. Les épitaphes. Voudriez-vous prendre par hasard la défense des épitaphes? Alors, je vous enverrai promener. Je tressaillis et mon regard, j'en suis sûr, étincela. Pendant une heure seulement au cimetière du Père-Lachaise. Vous ne direz pas, monsieur, qu'il y ait bien quelques diables sous cette terre. Eh bien, les épitaphes n'y signalent que des anges. Possible, lui dis-je. Au surplus, l'on conçoit que les survivants, dans l'excès de leur douleur, il m'interrompit encore. Vous êtes jeune, monsieur, vous êtes fort jeune. Il vous reste à apprendre que ce n'est jamais la douleur, mais bien le faste, la vanité ou la joie qui dicte et qui paye ses mensonges. Je me récriai. La vanité encore, mais la joie, monsieur, la joie au cimetière, sur une tombe. La joie, monsieur, l'allégresse, si vous aimez mieux. Cette allégresse sourde, puissante, où jette la venue d'un copieux héritage. Par un sentiment d'ailleurs naturel, mais qui n'a rien de commun avec la douleur, on veut reconnaître de quelque façon le bien qui nous est fait, et l'épitaphe se présente. C'est la plus commode d'entre toutes les façons, la moins coûteuse, et à ses causes la plus anciennement pratiquée. Grave, grave, mon sculpteur, grave à fond, grave toujours. Mets-en des vertus, mets-en encore, acquitte le tribut de... De quoi, messieurs, s'il vous plaît? Si ce n'est de notre gratitude profonde envers le défunt, de notre parfaite et entière satisfaction, de notre allégresse, d'autant plus vive, d'autant plus chaude au-dedans, qui lui est pour l'heure interdit de s'épandre. Il y a des monstres, repris-je indigné, qui sont faits ainsi, mais reprenez, tirez ce mot, jeune homme, et réservez-le pour la plus odieuse chose. Ce qui est misère, misère inhérente à l'humanité, ne serait-ce en justice être dit monstrueux. Je vous parle là de faits communs, je vous parle d'égoïsme plutôt laid que pervers, d'hypocrisie décente et honnête parmi les hypocrisies. Je vous parle de ce qu'ont pu faire des monstres tels que vous et moi, par exemple. Tout ce que je veux dire, c'est que ces mêmes monstres, s'ils sont réellement affligés, n'ont que faire de mausolées ni d'épitaphes. La douleur se nourrit d'elle-même. Elle est timide, craintive, elle a ses pudeurs. Jusqu'à ses habits de deuil que lui impose l'usage, en attirant les regards qui sont importuns. La douleur pleure l'être tout entier, avec ses défauts qu'elle excuse, avec ses vertus qu'elle chérit et auxquelles elle rend le culte secret des amers soupirs et des larmes ignorées. La douleur, monsieur, la vraie profonde, loin de s'étaler, elle se laisse à peine surprendre. Et si, fils ingrat, je voulais faire croire à la mienne, avant tout jeune, je me garderais d'aller poser un marbre sur la tombe de ma mère. Ce monsieur qui parlait ainsi me déplut. Le prieur me déplut aussi, qui témoignait se ranger à une opinion dont l'expression me paraissait tristement sévère et le sens faux et paradoxal, pour ne pas contredire et faire diversion. Va pour les épitaphes, monsieur, mais nous parlions tout à l'heure de description, de biographie, de portrait d'auteur. Je crois tout cela comme aux épitaphes, mais c'est pas à dire que j'y crois point du tout. Écoutez donc. Ces diables du Père Lachaise, il se peut au fond que ce fussent de bons diables. À coup sûr, il n'était pas sans qualité, l'épitaphe ment peut-être autant par celle de leur vertu qu'elle omet que par celle qu'elle leur décerne. De même, ces portraits de nos célèbres, ils ne sont pas sans ressemblance, mais c'est pareillement du beau, qui est faux sur du vrai, qui est incomplet. Ce n'est pas la figure de l'homme qu'on nous donne, c'est le visage de l'immortel. Ce n'est pas, comme jadis, cette mesquine tête de Fénelon enfouie dans une perruque. C'est un magnifique masque grimé, coiffé, ébouriffé pour le public et pour la postérité. Autrefois, on laissait au public le soin de retrouver sur la mesquine figure l'âme qu'avaient révélée les écrits. Aujourd'hui, c'est à ce même public de retrouver dans les écrits l'inspiration, l'originalité, l'intime, l'humanitaire, inscrits au visage. Épitaphe, monsieur, sur tous ces masques lithographiés, burinés ou peints, je lis en gros caractères, voici le plus grand des poètes, voilà le plus sublime des lyriques. Celui-ci fut âme de méditation, celui-là creux de profondeur, cet autre bouffi de génie. Épitaphe, monsieur, tout est épitaphe. Mais pour en revenir au grand Saint-Bernard, en ce moment, quelque tumulte se fit entendre en bas de l'hospice, du côté du seuil, et les aboiements de chiens couvrirent la voix de notre gros monsieur. Ce sont des arrivants, dit le prieur. Et il nous quitta pour aller les recevoir. Nous demeurâmes seuls, le gros monsieur et moi, occupés chacun de notre côté à former des conjectures sur ce qui se passait, et sans plus songer aux épitaphes. Au bout de quelques instants, un monsieur entra dans la salle. Ce monsieur était un touriste, âgé de 30 ans environ, fort bien mis, très communicatif. « Je vous salue, messieurs. » Il prit un siège, nous nous rangeâmes pour lui faire place. « Pardon, mais le feu fait plaisir quand on sort de l'avalanche. »« Une avalanche ?» dit le gros monsieur. « Dans cette saison » ajoutai-je. « Et puis, belle, je vous en réponds, d'un quart de lieue au moins. » Je ne compris rien à l'avalanche de ce monsieur. En effet, nous étions à la fin de juillet, dans une saison, par conséquent, où les sommités voisines étaient entièrement dépouillées de neige, cette neige qui n'y est pas, ne serait-ce précipitée en avalanche. N'osant toutefois contredire, je me bornais à prier ce monsieur de nous conter son aventure. « Volontiers, dit-il. » Nous avons quitté la cantine à 6 heures. La cantine, c'est du côté du Valais, la dernière maison habitée que l'on rencontre avant d'arriver à l'hospice. J'avais à 15 pas devant moi une société. Ce sont eux qui arrivent. 2 messieurs, une jolie fille, jolie ma foi, mais poitrinaire. Ils l'emmènent passer l'hiver en Italie. L'un des 2 hommes est son père, l'autre son fiancé, un grand Jacques, tranquille, empressé comme une statue. Ces Suisses sont comme cela. Arrivé sur l'avalanche, ici j'essayais d'interrompre. Permettez, monsieur, c'est ordinairement l'avalanche qui arrive sur vous. Attendez. Arrivé sur l'avalanche, je vois que la mule de cette demoiselle y est enfoncée jusqu'au ventre. et qui ne sentiront pas, à cause du guide qui n'entend rien, à manœuvrer une bête. Alors je m'approche, j'écarte le manant, je prends la bride et je vous fais marcher la mule, il fallait voir. Mais voici que la demoiselle s'effraie. Le père se fâche, le fiancé crie, si bien que la rosse devint quinteuse, et le guide s'en mêle, qui veut m'empêcher de la rouer de coups. Parbleu, lui dis-je, reprenez-la, votre mule. Je lui lance la bride. Mon imbécile la manque. Je lui lance une taloche. La bête s'abat et la demoiselle roule au fond de l'avalanche. Mais permettez, interrompis-je encore, c'est ordinairement l'avalanche qui roule sur la demoiselle. Attendez donc. Voilà mes deux poltrons qui se mettent à vociférer. Le guide qui jure, la demoiselle qui crie au secours. Je les envoie à tous les diables, et n'apercevant ni père ni chien, je me lance dans l'avalanche, j'arrive droit sur leur demoiselle, et aidé du guide, je la ramène saine et sauve sur la chaussée. Voilà l'histoire, dit notre touriste en terminant. Puis, s'étant brise à tousser, ça enrhume l'avalanche. Bonne nuit, monsieur, je vais me coucher boire chaud. Là-dessus, il se retira, sans nous avoir donné le temps de rectifier l'idée singulièrement erronée qu'il se faisait d'une avalanche. On sait en effet qu'une avalanche est une pelote de neige qui, venant à se détacher des hauteurs, se grossit des neiges sur lesquelles elle roule, devient en peu d'instants une masse formidable et dans sa chute précipitée brise, renverse, écrase tout sur son passage. Des circonstances accidentelles peuvent déterminer une avalanche dans tout endroit où la neige repose sur des pentes rapides. Mais c'est en général dans les mêmes couloirs et aux mêmes endroits qu'elles ont lieu chaque année, en vertu de circonstances favorables et constantes qui leur font prendre cette route. En plein été, lorsqu'on voyage dans les Alpes, on reconnaît fort bien ces couloirs. Ce sont de vastes pentes entièrement dégarnies d'arbres, de rocs, et au bas desquelles sont accumulés des débris séculaires que la végétation envahit et recouvre à mesure qu'en s'amoncelant, ils se servent de remparts à eux-mêmes. Dans les hautes vallées où les chaleurs sont de courte durée, les neiges qui se sont accumulées durant l'hiver au bas de ces couloirs, n'ayant pas le temps de fondre, y demeurent en permanence, et il arrive aux gens du pays d'appeler avalanche ces restes de l'avalanche véritable. De là la méprise de notre touriste qui, visitant ces vallées pour la première fois, et la tête farcie de notions d'itinéraire, s'était persuadé avec empressement qu'il avait eu glorieusement affaire à ce redoutable fléau des Hautes-Alpes. J'aurais essayé de le désabuser s'il nous en eût laissé le temps, bien que ce soit une tâche malaisée et ingrate que de désabuser un homme lorsqu'il croit fermement à une chose qui flatte son amour-propre. Comme mon cousin Ernest se battit en duel, nous, honnêtes témoins et bons parents, nous avions chargé à poudre. L'adversaire ajusta. Ernest tira en l'air. On s'en alla déjeuner. L'honneur fut satisfait. Mais quand il raconte l'histoire, mon cousin Ernest, il prétend que la balle effleura son oreille. Il imite le sifflement du projectile. Ma tante Sarah frémit. Toute la compagnie frémit, et nous, honnêtes témoins et bons parents, nous sommes contraints de frémir avec la compagnie et avec ma tante. Frémirions-nous, si ce n'était chose ingrate et malaisée, que de désabuser notre cousin? Le touriste venait de nous quitter lorsque deux messieurs, qui me parurent être le père et le fiancé, entrèrent dans la salle. Ces messieurs se mirent à table et parurent s'apprêter à bien souper. Leur appétit me choqua et leur sécurité me déplut. Ce monsieur âgé me paraissait pas trop tranquille pour un père dont la fille, déjà poitrinaire, venait de passer une demi-heure dans la neige. Et quant au fiancé, à chaque bouchée qu'il s'administrait, je m'en indignais comme d'un outrage fait à la beauté malheureuse et souffrante. Je me souviens même qu'à l'exemple du touriste, je tirais de ce spectacle des inductions tout à fait défavorables à la sentimentalité suisse. Pendant que j'étais tout occupé de mes inductions, un domestique entra dans la salle, apportant du thé sur un plateau, et tout aussitôt parut la demoiselle elle-même. C'était bien elle, car son père s'étant levé, l'embrassa au front, en témoignant une grande joie de la voir si promptement rétablie, tandis que ce malotru de fiancé, au lieu d'entrer en extase ou de se confondre en expressions senties de vif bonheur et de tendre joie, continuait de manger en disant avec l'accent le plus calme et le plus vulgaire « Louise, assieds-toi là et prends ton thé pendant qu'il est chaud. » Certes, ce n'était pas là le tutoiement passionné de Saint-Preux s'adressant à Julie, mais aussi cette tranquillité familière me faisait-elle l'effet d'une profanation. Cette demoiselle était effectivement fort jolie, et le danger qu'elle venait de courir rehaussait à mes yeux l'agrément de ses traits et les grâces de son visage. Seulement je ne lui trouvais ni la pudique embarras d'une fiancée que deux messieurs considèrent, ni cet air de touchante mélancolie qu'on s'attend à rencontrer chez une jeune personne frêle et menacée. Mais ce qui me déconcerta bien autrement, ce fut de surprendre sur ce visage où je cherchais l'abattement et la tristesse, les signes visibles d'un fou rire que notre présence comprimait à peine. Ce fou rire se communiqua au fiancé d'abord, puis au père, qui n'y pouvant plus tenir, se tourna vers nous en disant « Pardon, messieurs, ces rires doivent vous paraître déplacés, mais ils sont irrésistibles, excusez-nous !» Tous les trois, alors, affranchis de gêne, éclatèrent de rire, pendant que nous les considérions avec l'étonnement le plus sérieux. Je jugeais à propos de me retirer, et déjà je m'y disposais, tout en regrettant de m'être mis en frais de compassion pour des gens au fond si contents, lorsque le père, s'adressant à moi, « Je veux vous mettre au fait, monsieur, de la cause de cette hilarité, qui doit vous paraître étrange. Bon, il s'agit d'un monsieur, ce monsieur qui était ici tout à l'heure, oui, précisément, le plus obligeant du monde, mais le plus dangereux que je sache. Nous n'avions jamais vu, lorsqu'il s'est fourré dans la tête, là-bas, vers ces neiges, que nous courions quelques grands dangers d'avalanche. Par pur dévouement, alors, et avec un imperturbable aplomb, il a écarté notre guide, rossé notre mule et jeté ma fille dans le ravin. Les rires interrompirent ce récit. En effet, plus l'alarme avait été vive, plus le danger passé, ces circonstances se présentaient sous leur côté comique à l'esprit des trois voyageurs et excitaient en eux la gaieté dont j'étais le témoin et dont je fus bientôt le complice. J'y mis le comble en leur apprenant que, dans l'esprit du touriste, la jeune demoiselle passait pour poitrinaire et son frère pour un fiancé, auquel il reprochait d'une prosaïque froideur. Le gros monsieur, toujours assis au coin du feu, avait écouté cet entretien sans y prendre part et sans s'associer à nos rires. À la fin, s'étant levé comme pour gagner sa chambre, « Un soir, dit-il, et un de mes compatriotes, vous pouvez y compter. Il n'y a qu'un de mes compatriotes qui réunissent à cet heureux degré, les tourneries et l'aplomb, la présomption et l'ignorance, et qui, plutôt que de douter de lui-même, vous jettera dans ce qu'il prend pour une avalanche, une fraîche demoiselle qu'il prend pour une poitrinaire, messieurs. Je vous souhaite le bonsoir. » Là-dessus, le gros monsieur prit une lumière et se retira. Bientôt après, nous en fîmes autant. Les chambres réservées aux voyageurs à l'hospice du Grand Saint-Bernard sont de petites cellules séparées les unes des autres par une cloison en bois. Lorsque j'eus éteint ma lumière, j'aperçus une clarté qui se projetait sur mon lit au travers des fentes de notre cloison. Il est rare, en pareille conjoncture, qu'une curiosité très indiscrète, mais très vive aussi, ne vous porte pas à approcher votre œil de celle des fentes qui vous paraît la plus large. C'est ce que je ne manquais pas de faire, en prenant les plus sages précautions pour qu'aucun bruit ne trahît mon indiscrétion. Alors je vis, à ma grande surprise, et peut-être avec quelque désappointement, notre touriste assis sur son lit, le buste et la tête chaudement enveloppés, et qui, tenant la plume, paraissait absorbé dans un travail de composition. À côté de son lit, une théière fumante et un flacon d'eau de cerise. De temps en temps, il cessait d'écrire pour relire et corriger, et toutes les nuances de satisfaction, depuis le simple sourire de contentement jusqu'au sérieux le plus admiratif, venaient se peindre sur son visage. Un moment, il ne put résister au désir d'écouter le flatteur murmure de sa période, et dans le morceau qu'il se lut à lui-même, je distinguais seulement qu'il s'agissait de Molosse, de Violette et d'une jeune personne nommée Emma. Je conclus que notre touriste était un auteur, peut-être même un voyageur de l'école d'Alexandre Dumas, qui était occupé pour le moment à éditer les impressions, les souvenirs et les catastrophes de sa journée. Sur ce, je le laissai à son travail et je m'endormis. Le lendemain, à déjeuner, j'appris que le touriste était parti depuis une heure. De son côté, le gros monsieur s'apprêtait à gagner Martigny. Je m'associai donc pour descendre à la cité d'Aoste aux trois personnes avec qui j'avais fait connaissance la veille d'une façon si gaie. Ces trois personnes, dont l'une desquelles le touriste avait deviné du premier coup d'œil un Suisse flegmatique, ne laissaient pas connaître de Chambéry. Elles se rendaient à Livré pour y célébrer les noces de la jeune fille. Promise dès longtemps par son père, aubergiste à Chambéry, au fils d'un piémontais, aubergiste à Ivray. Par la même occasion, le bonhomme comptait s'approvisionner en vin et en riz, puis après avoir terminé ses affaires, rentrer en Savoie par le petit Saint-Bernard. Chemin faisant, il m'expliquait toutes ces choses avec cette gaie et affectueuse bonhomie qui est naturelle aux Savoyards, et comme je paraissais y prendre intérêt, chemin faisant aussi, il me priait à la noce, et sa fille, avec une aimable ingénuité, m'encourageait à leur faire l'honneur d'y assister. Sans refuser précisément, je n'étais pas non plus décidé à accepter, car voici ce qui se passait au-dedans de moi. La veille déjà, l'air de cette jeune personne m'avait vivement intéressé. Mais aujourd'hui, je commençais à en devenir amoureux. C'est aller vite en besogne. Mais outre qu'en voyage, le cœur plus aventureux et plus libre et plus prompt à s'enflammer, en tout temps, il est peu à l'épreuve de certains traits d'un charme inaccoutumé et d'une grâce pour lui nouvelle. Élevé auprès des religieuses du Sacré-Cœur, cette jeune fille était sortie du couvent depuis quelques semaines seulement, en sorte que, novice sans expérience et à peine rendue au monde, elle était charmante à la fois par ses manières naïves et par je ne sais quelle fleur de joie et d'espérance dont rien encore n'avait terni les tendres et délicates couleurs. Gracieusement montée sur sa mule, qui, selon l'instinct propre à cet animal, suivait le bord extérieur de la chaussée, elle penchait sur le précipice, sans cesser de folâtrer, avec une sécurité qui chez elle n'était pas courage, mais insoucieuse confiance. Cependant, lorsque l'entretien passait de la qualité des riz ou du prix des vins à des sujets plus de son goût, elle y prenait part, tantôt en se livrant à des saillies d'enjouement, tantôt en écoutant avec un sérieux plein d'intelligence. À deux ou trois reprises, il fut question de son fiancé. Elle ne l'avait vu qu'une fois. Elle parlait de lui sans embarras comme sans passion, sans paraître non plus voir dans le mariage autre chose qu'une fête délicieuse et perpétuelle. Aimable enfant, tout en attachant sur elle mes regards, je me représentais sa future destinée, son désenchantement si prochain. Et après avoir deviné quel mécompte l'attendait probablement au sein même d'un bonheur domestique incertain encore, j'aurais voulu être l'homme qui devait les lui épargner par sa constante tendresse et par les ménagements qu'inspire un cœur délicat et vivement épris. Mais comme je ne devais pas être cet homme, j'aimais mieux ne pas nourrir un sentiment qui devient bien vite pénible lorsqu'il est sans espoir. Voilà pourquoi je ne m'étais pas encore intérieurement décidé à assister à la noce du Piémontais. Au bout de 4 heures, nous arrivâmes à la cité d'Aoste. C'était jour de foire. Sous l'ombre des ruines de l'amphithéâtre et tout autour des antiques portes romaines, les paysans, descendus des montagnes, étalaient leurs denrées. Ici, les fromages s'élevaient en pile. Là, mugissaient des génisses. Plus loin, de timides brebis bêlaient autour des échoppes, où allaitaient leurs agneaux sous l'abri des chariots. Nos deux messieurs, à peine arrivés, s'étaient vus entourés des marchands qu'ils avaient à faire. Et tout disposait déjà à me traiter comme en fait une ancienne connaissance. Ils avaient abandonné à ma protection leur jeune demoiselle. L'hôtel où nous étions descendus était bruyant et encombré de monde. Pour l'en faire sortir, je lui proposai un pèlerinage à la tour du lépreux. Après y avoir consenti avec un joyeux empressement, et comme nous nous acheminions déjà, elle me demanda qui était le lépreux. Je lui promis qu'elle le saurait bientôt, et étant entré dans la boutique d'un libraire, j'y achetai le livre de M. de Maistre. Alors nous nous dirigeâmes vers l'agreste enclos où s'élève la vieille tour qu'il a immortalisée, et quand nous l'eûmes visitée, nous allâmes chercher dans la prairie voisine un ombrage pour nous y asseoir et faire notre lecture. C'étaient des chênes touffus et non loin quelques bouleaux, ceux-là peut-être auprès desquels le lépreux, ayant vu la jeune femme pencher la tête sur le sein de son époux, sentit son cœur se serrer et son âme près d'être brisée par un affreux désespoir. Ma jeune compagne, élevée chez les religieuses du Sacré-Cœur, n'avait guère lu que des livres de piété. Pour la première fois, elle écoutait un écrit tout ensemble grave et attachant, dont le style, plein de mouvement et d'éloquence, tantôt pénètre mollement le cœur, tantôt l'étreint et le fait bondir de pitié. Calme d'abord et presque distraite, elle regardait alternativement cette tour, ces montagnes, ce vallon, jusqu'à ce que, captivée de plus en plus par l'intérêt du récit, elle montra une sorte de surprise à laquelle succédait insensiblement en elle l'enchanteresse émotion d'une âme neuve qui s'ouvre à la poésie. Son visage brillait de plaisir. Toutefois, ces pages de plus en plus sombres où se déroulent les souffrances amères du lépreux, ses yeux se mouillèrent de larmes. Et quand j'approchais du moment où la sœur de cet infortuné va lui être retirée, sa compassion se trahit par des pleurs. Elle me pria de ne pas poursuivre. Alors, je fermai le livre et en le lui offrant pour qu'elle pût achever plus tard cette lecture, je la priai de conserver ce petit volume en souvenir de moi. Elle me le promit avec effusion, mais en rougissant. En effet, nous venions de sentir ensemble, de nous émouvoir ensemble. Nos cœurs s'étaient secrètement approchés l'un de l'autre, en sorte que la bienveillance ingénue de la veille venait de faire place chez cette jeune fille au trouble pudique du sentiment. Nous retournâmes à l'hôtel. Les deux messieurs, tout entiers à leurs affaires, s'occupaient de les terminer afin de repartir. À peine s'aperçurent-ils que leur jeune demoiselle était bien changée. Pour moi, j'avais si bien la conscience du mal que je venais de lui faire imprudemment en troublant le calme de son cœur et en l'ouvrant dans la poésie tout juste au moment où elle allait contracter le plus saint mais le plus prosaïque des engagements, que j'en éprouvais une sorte de compatissant chagrin. Ce mal, je ne pouvais déjà plus le guérir, mais je pouvais l'accroître peut-être en continuant le chemin dans la société de cette jeune personne, comme j'y étais porté par un désir pressant et presque coupable, déjà, en raison même de sa vivacité. Aussi, faisant un effort extrême pour résister aux sollicitations affectueuses du père, du frère, et aux timides mais instantes prières de leur compagne, je me séparai d'eux après les avoir remerciés de leur accueil. Quelques instants après, ils partirent. Je demeurai à Aoste, éprouvant au milieu de cette foule un vif sentiment de solitude et le cœur tout rempli d'une mélancolie que j'allais nourrir à cette même place où nous nous étions assis le matin sous les chênes. Le lendemain et les jours suivants, je continuais d'être en proie à une préoccupation qui me laissait peu de curiosité pour observer les contrées ou les villes que j'étais venu visiter. À Ivrea, où je passais de grand matin, il fallut de nouveau me faire violence pour ne pas m'y arrêter au moins quelques heures. Les rues étaient désertes, l'air froid, la douare à peine blanchie par les premières lueurs de l'aube, et néanmoins il me semblait que cette contrée fut la plus charmante de l'Italie et cette ville la seule où j'aurais aimé fixer mes jours. Je voulus la traverser à pied. En passant, je vis plusieurs hôtels, et devant chacun je m'arrêtai, incertain s'il était la demeure de la jeune fille, probablement endormie à cette heure, peut-être aussi rêvant tout éveillé à ses émotions de la veille, et à ce jeune homme qui en avait été, sinon l'objet, du moins l'occasion. Comme je m'oubliais dans ces haltes successives, le cocher de ma carriole à qui j'avais commandé de m'attendre au sortir de la ville revint sur ses pas pour m'appeler. Je le suivis, la carriole roula, et au moment où le pavé de la dernière rue cessa de retentir sous la fuite des roues, j'éprouvai une inexprimable tristesse. Toutefois, avec le cours des semaines, cette préoccupation s'effaça insensiblement, et bientôt le vif sentiment que j'apportais se trouva transformé en un tendre souvenir. Je visitais Gênes, Florence, Rome, Naples, et quand il fallut songer au retour, je choisis pour traverser les Alpes le passage du Simplon, tout autant parce que mon cœur, devenu libre, ne me pressait plus de repasser par Ivrée, que parce que j'aurais redouté, en y passant, de voir s'y flétrir un souvenir si tendre, si pur et si rempli de fraîcheur. Arrivé à Genève l'automne dernier, j'allais, selon mon usage, faire visite à ma tante Sarah. Plus haut, j'ai parlé d'elle à propos du duel de mon cousin. Ma tante Sarah habite la campagne. C'est, aux portes de la ville, un jardinet séparé par des murailles de jardinets voisins. Ce jardinet offre l'agrément d'une balançoire. Une pompe, dont l'eau ne tarit que dans le temps des sécheresses, y fournit aux arrosements. Et à l'angle nord-est, mon cousin Ernest a fait élever une jolie montagne sur laquelle il a construit et peint en vert un pavillon chinois, d'où la vue plane sur la maison de l'Octroi et sur les fortifications de la ville. Ma tante Sarah est une excellente dame, maintenant âgée, qui n'a éprouvé durant sa vie qu'un seul malheur, celui de perdre son époux, il y a 40 ans, après 3 mois d'un bonheur sans mélange, comme elle dit elle-même, naïvement. 6 mois après cette catastrophe, elle accoucha d'un fils posthume sur lequel se concentrèrent dès lors toutes ses affections. Ce fils est mon cousin Ernest, qu'elle a élevé comme une mère tendre, qui fut institutrice dans sa jeunesse, élève un fils unique et de plus posthume. Dès le bas âge, des méthodes d'ordre, des habitudes de bienséance, des leçons de maintien, et plus tard, pour former le cœur, des sentences, des quatrains, le moral en exemple, le vice puni, la vertu récompensée. Plus tard, pour former l'esprit, des règles d'urbanité, des conversations, et dès la première adolescence, des gants, une badine, un frac, les pieds en dehors, et des manières conformes. Plus tard, rien. À 15 ans, mon cousin Ernest était un homme fait, parfait, un homme modèle, faisant la joie de sa mère et la joie aussi de quelques camarades rieurs et dégourdis dont ma tante trouvait le ton détestable. Aujourd'hui, mon cousin Ernest, toujours unique et posthume, est en outre un célibataire rangé, propret, qui élève des œillets, qui arrose des tulipes, et qui va chaque jour à la ville, à 8 heures en été, à midi en hiver, pour retirer la gazette après lecture, et pour échanger chez la loueuse de livres le tome premier du roman que lit ma tante contre le tome deuxième. Si les chemins sont humides, ils portent des socs. S'ils sont poudreux, ils chaussent des souliers de peau jaune. Si la pluie tombe ou si le baromètre est menaçant, il prend place dans l'omnibus. Sans l'omnibus, il n'aurait jamais eu de duel. Chose bizarre, je suis militaire de mon métier, assez vif de mon naturel, très chatouilleux sur le point d'honneur, et je n'ai pas encore eu mon duel. Mon cousin Ernest passe sa vie au milieu de bonnes vieilles dames. Il ne fréquente ni les salons ni les lieux publics. Il est débonnaire, il est unique, il est posthume. Et le destin a voulu qu'il eût son affaire d'honneur. C'est qu'au fond, les habitudes sont pour mon cousin Ernest ce que sont pour d'autres les passions et le droit d'être en route à 8 heures. Quand il a pris l'omnibus de 8 heures, ce n'est que pour d'autres mauvaises têtes le droit imprescriptible d'entonner la Marseillaise ou de fumer au nez d'une comtesse. Or, un jour, au moment où mon cousin prend place dans l'omnibus de 8 heures, il se trouve que, sur la prière d'un jeune étranger, le conducteur vient de consentir à retarder le départ de quelques minutes pour donner à la dame qu'attend cet étranger le temps d'arriver. Ceci attriste mon cousin, qui entrevoit dès lors un grand trouble apporté dans toute l'économie de sa journée. Le car sonne. Ceci aigrit mon cousin, qui songe que cette dame va être la cause d'une série continue d'irrégularités ricochant les unes sur les autres et aboutissant à déplacer l'heure de son dîner, lors de son café, lors de sa sieste. Au 25 minutes, il n'y tient plus et se prend à grommeler « Oh, diable, la demoiselle !» Aussitôt, le jeune étranger lui donne son adresse, lui demande la sienne, et tout se trouve arrangé pour le lendemain à 8 heures précises, ajoute l'étranger. Ce jour-là, mon cousin se fit attendre. Il apporta les excuses, on n'en voulut pas. Alors, honnêtes témoins et bons parents, nous fîmes le reste et l'honneur fut satisfait. Je reviens à la visite que je fis à ma tante Sarah l'automne dernier. Introduit dans le jardinet, je la trouvai établie dans le pavillon chinois et faisant une lecture à quelques bonnes dames du voisinage. Il fallait que le sujet en fût touchant, car je trouvais toute cette société dans l'attendrissement, hormis pourtant mon cousin Ernest, qui est toujours unique et posthume, et fumait un cigare nonchalamment assis sur un banc rustique à l'ombre d'un acacia pommelé. Après avoir salué tout ce monde et embrassé ma tante, je priai ces dames de ne pas interrompre leur lecture à cause de moi, et j'allais m'asseoir et fumer aussi sur le banc rustique à l'ombre de l'acacia pommelé. Ma tante lisait exactement comme lit une mère tendre, qui fut institutrice dans sa jeunesse, avec une emphase didactique, d'après des principes raisonnés et selon toutes les règles de l'épellation la plus strictement régulière, en sorte que c'était un charme de l'entendre. Après l'avoir replacé ses lunettes sur son nez, elle continua sa lecture. Cette jeune fille était une de ces blanches figures de femme qu'entoure comme d'un voile crépusculaire une bleuâtre auréole d'intime tristesse. Condamnée par le sort à subir l'autorité d'un père incapable de comprendre les mystérieuses aspirations d'une âme qui cherche à combler les gouffres de son cœur et à compléter la réalisation de son être, elle se consumait en douleurs secrètes et en sanglots étouffés. C'est que cette plante, créée pour fleurir sur le radieux penchant des Apennins, avait dû germer au milieu des pentes froides de l'Helvétie, en sorte que, sur le point de s'épanouir en éclatantes corolles, le vent glacé des hauteurs la forçait de s'emprisonner dans l'ingrate enveloppe de son pâle calice. « Cousin, quelle est donc cette plante ?» demandai-je au célibataire posthume qui fumait à mes côtés. « C'est une délicieuse création de femme. » Mon cousin était dressé à répéter les expressions choisies de sa mère. « Et ce livre, quel est-il ? »
« Une impression de voyage. »
« Pas gai ? »
« Non. »
« Triste ? »
« Ou très fort. »
Et mon cousin, de qui ces questions, bien plus que les sanglots étouffés de la blanche figure de femme, troublaient la quiétude, se remit à fumer d'un air qui signifiait que, sans vouloir m'engager à écouter, il m'engageait néanmoins à le laisser tranquille. Aussi, tandis qu'elle cherchait en vain, parmi les êtres positifs dont elle était entourée, celui qui devait ouvrir et pleurer de son amour le palais désert de son cœur, son père, cousin, quel est ce père? C'est le sien. Organisation vulgaire, l'un de ces hommes dont la vie se dépense tout entière en mercantiles opérations. Un négociant, pas vrai?
Oui.
Son père, au lieu de proposer à sa tendresse quelqu'un de ces nobles exilés, qu'au jour de ses convulsions, la volcanique Italie a lancé au-delà des Alpes. Gianni Banzini, oh, ça j'ignore, quelqu'une de ces natures riches et embrassées, telle qu'on produit encore Naples ou la ville aux gondoles. Venise, avait jeté les yeux sur un jeune Suisse aux formes massives, aux joues pleines et fraîches, à la chevelure blonde, symbole blafard d'un âme terne et sans bouillonnement. Ainsi la pâle fleur, sans cesse agitée par les vents glacés, au lieu de rencontrer dans les fleurs ses compagnons un élastique support, allait battre de front aux flancs bruts de ces deux blocs de granit qui la tuaient en voulant l'abriter. Ici ma tante, qui fut institutrice dans sa jeunesse, ne put s'empêcher de faire remarquer combien ce livre était délicieusement écrit. Elle trouvait à ce style d'infinies nuances qui répondaient aux mille harmonies d'une âme sensible. Elle insistait particulièrement sur ce retour imprévu d'une comparaison qui jetait tant de lumière sur la situation décolorée de l'héroïne. Les vieilles dames, tout en partageant entièrement cette opinion, témoignaient d'ailleurs le dédain le plus marqué pour ces deux pauvres blocs de granit, et l'une d'elles épousait avec une exaltation si prononcée les douleurs de cette femme incomprise que je me pris à conjecturer qu'elle-même avait eu beaucoup à souffrir de l'indifférence stupide d'un sexe sans discernement. « Est-elle mariée, cette dame ?» demandai-je tout bas à mon cousin. « Non. Pour moi, bien que je fusse à mille lieues de me douter encore que cette plante étiolée était ma fraîche compagne d'Aoste, et ce bloc l'aubergiste de Chambéry, je m'intéressais vivement à une lecture qui, sans altérer le moins du monde la quiétude de mon bon cousin, ébranlait à ce point la sentimentalité de ces dames et provoquait de leur part des remarques non moins délicieuses que le style qui en était l'objet. Lorsque je les rencontrais, poursuivit ma tante en continuant sa lecture, ils cheminaient du côté des plaines de l'Italie, dans le fol espoir que les haleines les plus douces d'un climat embaumé arrêteraient les ravages de cette destinée déçue. Mais moi, de qui l'âme comprenait cette âme, je voyais la Vierge s'acheminant comme par une allée de cyprès vers sa fosse déjà creusée, et le poids d'une immense douleur pesait sur mon âme affaissée. Auprès d'elle, son blond fiancé parvenait à la lumière des cieux l'ampleur massive de ses formes, dont aucun embrasement intérieur ne venait colorer la fade fraîcheur, ni tordre et saccader les mouvements prosaïques. Une épaisse stupidité de cœur recouvrait cet homme comme une armure de plomb, et l'approche même d'une effroyable avalanche. Ici j'écoutais à deux oreilles, ne suffisait pas à lui inspirer les égoïstes alarmes de la frayeur la plus vulgaire. Cependant, la nuit approchait, les noires dentelures des cimes semblaient mordre les nuages du soir, et les gorges du Saint-Bernard absorbaient une immense gueule les dernières lueurs du couchant. L'avalanche était là, béante et insondable, pâle comme un linceul, avide comme une tombe. Tout à coup, une blanche apparition s'élance, tournoie et s'abîme dans le gouffre. C'est Emma. Emma ! M'écriai-je en moi-même. Plus prompte que l'éclair, je m'y jette sur sa trace, je roule, je bondis, je plonge de vide en vide, cherchant à devancer la mort qui roule à ma poursuite, et vainqueur dans cette lutte funèbre, j'arrive auprès de la Vierge pâlissante et glacée. Elle avait voulu trouver dans ce gouffre la fin de ses tourments. Alors je lui laissais voir que moi, l'étranger, que moi, l'inconnu, j'avais deviné sa pensée. Comprise enfin, pour la seule fois peut-être, ses paupières s'ouvrirent pour laisser briller la flamme du ravissement, et le sourire radieux, ineffable, accourut sur les violettes de ses lèvres. En même temps arrivaient les molosses de l'hospice, chargés de cordiaux, aboyant le secours et la délivrance. Du haut de la chaussée, on nous entendit un câble. Les pères vinrent à notre rencontre. Je remis aux hommes du ciel la victime du monde, et après la l'avoir remise, je m'éloignai à pas désespérer. Je partis d'un grand éclat de rire. Les dames se levèrent indignées. Mon cousin regarda sa mère. Ma tante me regarda. Je regardais tout ce monde en larmes. Et n'étant plus maître alors de réprimer une hilarité que ce spectacle même portait à son comble, je pris le parti de saluer la compagnie et de prendre congé en m'excusant d'avoir causé un si grand scandale. Et tout en regagnant mon hôtel, je me ressouvins de ce gros monsieur qui disait « Épitaphe, tout est épitaphe !»